Cette émission vous est présentée par NHCO Nutrition, laboratoire français, créateur de compléments alimentaires santé, minceur et bien-être, spécialiste des acides aminés.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
Bonjour Célia.
Bonjour Fabrice.
Là on enchaîne hein, les émissions, vous voyez Célia, c'est l'usine.
Ah mais ça fait plaisir, ça veut dire que ça marche bien et que, que c'est super. En tous les cas, c'est très suivi, hein, Nutri Radio, donc c'est une super nouvelle.
Écoutez, de plus en plus, et vous savez quoi, c'est l'usine, mais c'est l'usine artisanale. Vous savez, c'est les deux esprits qui se mélangent, qui se rencontrent, la quantité, la qualité, avec des experts dont vous faites partie. Célia, docteur en neurosciences, c'est chaque mercredi sur Nutri Radio, 17h-18h, et le podcast, si vous loupez l'intégralité de l'émission ou vous voulez la réentendre, la réécouter, eh bien c'est à partir du dimanche. 18h. Alors, Célia, on se frotte les mains, évidemment, parce que là, on va en apprendre encore. On parle de la mémoire depuis un moment. Là, c'est votre chapitre. Célia, elle est très organisée. C'est un côté très professoral, très masterclass. On est donc très... quand vous réécoutez les podcasts, tout est très logique et c'est très bien, bien structuré. Bravo, Célia. C'est pas pour rien que vous enseignez, d'ailleurs. Alors.
C'est un peu ça, voilà. Et puis, honnêtement, c'est comme ça. Les personnes n'ont pas besoin de faire des va-et-vient. Ça leur demande moins de ressources mentales pour pouvoir suivre et comprendre ce qui se passe. Et l'important, c'est qu'ils comprennent pour mieux fonctionner après.
Alors, je vous trouve particulièrement en forme, sachez-le. Je ne sais pas ce que vous avez mangé. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Quoique, il y a une petite nouvelle dont vous allez nous parler en fin d'émission, ou même plutôt maintenant. Tiens, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Ne faisons pas de faux teasing, puisqu'il y a un bouquin qui va sortir bientôt, qui sera dispo en précommande, qui s'appelle... J'ai noté « Se débarrasser du stress en 7 jours ». Bon, j'ai mal noté.
Mon programme anti-stress en 7 jours. Ouais. Et effectivement, c'est un livre pour lequel j'ai collaboré, dont l'auteur principal est Thierry Thomas. Donc Thierry Thomas, c'est un petit peu un des spécialistes de la cohérence cardiaque. Il a écrit plusieurs livres au niveau de la cohérence cardiaque et d'autres livres un petit peu sur le sujet du stress, etc. Et il m'a proposé effectivement de collaborer à ce livre. On est tous les deux au centre, on fait partie tous les deux des centres de gestion du stress, donc du réseau national des centres de gestion du stress. Et c'est avec grand plaisir que je l'ai fait. Et là, effectivement, le livre était sorti plus ou moins en précommande, voilà. Et là, normalement, début mars, c'est prévu, il sortira dans les librairies, donc dans les librairies, quelles qu'elles soient, à partir du moment où la librairie l'a commandé, ou dans les grandes enseignes, vous pourrez retrouver donc mon programme anti-stress en 7 jours, donc avec les auteurs qui sont Thierry Thomas, qui est l'auteur principal, et moi-même, Célia Morès, qui suis aussi, est collaborée, mais qui fait partie des auteurs du livre. Donc, c'est une super nouvelle parce que tous les aspects, Fabrice, sont traités. L'alimentation, le sommeil, qui sont mes domaines, évidemment, qui sont particulièrement mes domaines, voilà. Mais il n'y a pas que ça. Et ça va permettre aux personnes d'essayer de faire en sorte d'avoir un panel, justement, entre le sommeil, l'alimentation, le sport, la méditation, etc., pour mieux vivre le stress et être moins stressé, et donc évidemment mieux appréhender, j'allais dire, les aléas de la vie. Donc c'est plutôt une super nouvelle parce que c'est un bouquin très pragmatique, et donc voilà. Et j'en suis très fière et ravie d'avoir participé à ce projet et qu'il ait fait appel à moi pour collaborer.
Bien, écoutez, on a hâte. On rappelle mon programme anti-stress en 7 jours aux éditions.
Le Duc.
Aux éditions Le Duc, qu'on embrasse évidemment. Alors allez, on enchaîne avec les sujets du jour, puisque on l'avait annoncé un peu la semaine dernière, les particularités de la mémoire. Alors on a vu, on a fini la semaine dernière le chapitre sur les différents types de mémoire. Je vous conseille de réécouter ce podcast, pas maintenant, hein, vous attendez la fin de l'émission. Et là, les particularités de la mémoire, en démarrant par cette question, la mémoire peut-elle nous tromper? Vous nous disiez, oui, il y a la mémoire trompeuse, attention.
Effectivement, Fabrice, la mémoire peut nous tromper. Pourquoi ? Je vous l'ai dit dans une des émissions dédiées à la mémoire que lorsqu'on raconte un souvenir, on reconstruit le souvenir. Donc, on ne le raconte jamais à l'identique. Et finalement, c'est pas une pâle copie de ce qu'on a encodé. C'est pas comme si on prenait un bouquin et qu'on relisait l'histoire mot pour mot. Donc, en reconstruisant le souvenir, le cerveau va peut-être faire des erreurs. Alors, ça va se produire pourquoi ? Parce que quoi, on oublie quelques informations. Parce que ces informations-là sont récurrentes. C'est-à-dire que si on fait une sortie au restaurant avec des amis, on va peut-être se souvenir, évidemment, du restaurant, du moment passé avec eux. Mais il y a tout un script, un enchaînement d'actions dont on va peut-être pas se souvenir. Et si on veut raconter le souvenir, on va combler parce qu'on sait déjà, parce qu'on a en tête, je vais prendre un exemple tout de suite, Fabrice, des scripts déjà préenregistrés. Quand vous allez au restaurant, Fabrice, vous savez très bien normalement comment ça va se passer. Le serveur ou le maître d'hôtel vous accueille, vous conduit à la table, ensuite prend votre commande. Donc ça, c'est des choses que l'on peut oublier. Et si on veut raconter un souvenir à quelqu'un, on va parfois pouvoir combler avec des choses qui sont fausses parce qu'on a pré-enregistré effectivement ces scripts dans notre cerveau. Alors, ça aide en fait d'avoir ça. Ça nous permet de mieux comprendre un texte quand on le lit puisque c'est déjà pré-enregistré qu'on sait comment ça se passe. Donc, ça aide à la compréhension. Mais parfois, ça peut évidemment biaiser la mémoire. D'autre part, comme le cerveau, effectivement, je vous l'ai dit, n'aime pas le vide, il va combler ces trous-là, mais parfois, il va les combler aussi avec nos propres attentes, nos préoccupations du moment. Il y a notamment un certain Barlett qui a mené une étude, justement, il racontait une histoire, c'était l'histoire de chasseurs qui partaient, de guerriers chasseurs, qui partaient à la chasse à la loutre et qui, au bord de la rivière, se battaient avec des fantômes. Et quand il a demandé à des personnes d'apprendre l'histoire et de la raconter, ce qui s'est passé finalement, c'est que beaucoup ont changé, c'était plus des chasseurs, mais c'était des pêcheurs. C'était plus la chasse à la loutre, mais c'était autre chose. Pourquoi ? Ben parce que finalement, ça se passait peut-être en Europe, les Européens, et il était plus courant de pêcher que de faire de la chasse à la loutre, etc. etc. Donc pourquoi ? Ben parce que le cerveau a modifié les informations pour peut-être pour la rendre plus plausible par rapport à nos attentes, à nos préoccupations. Donc, c'est ça, les faux souvenirs. Les faux souvenirs, non. Là, on n'y est pas encore dans les faux souvenirs. C'est la deuxième partie. C'est ça en quoi notre mémoire peut nous tromper. Donc, il y a des tas de choses comme ça aussi. C'est ça aussi, les témoignages oculaires. On parle beaucoup des témoignages oculaires en disant il a fait un faux témoignage oculaire ou il... Non, il n'a pas fait un faux témoignage oculaire. C'est que la personne ne l'a pas fait volontairement. C'est que lorsqu'on vit finalement une situation un petit peu délicate, mettons une attaque à main armée, et qu'on nous demande après de décrire l'agresseur, on a tellement été omnubilé, on a tellement, par exemple, focalisé sur l'arme, qu'on a oublié peut-être le visage de l'agresseur, et qu'on va reconstruire un souvenir. Et en le reconstruisant, forcément, on va mettre des informations que l'on connaît déjà, etc., qui, quitte, va nous conduire à faire des erreurs, parce que tout simplement, le cerveau aura comblé par des informations qui seront fausses en raison de la situation un petit peu émotionnellement forte.
Ça, c'est incroyable parce que ça mène à beaucoup aussi d'erreurs judiciaires, beaucoup de choses un peu compliquées. Hein. C'est pas sans incidence tout cela.
C'est pas sans incidence, notamment quand on nous montre des photos, forcément pour reconnaître des gens, c'est pour ça qu'il y a autant de différences, parce que les personnes n'ont pas perçu la scène de la même manière, n'ont pas focalisé sur la même chose, etc. Ce qui fait que ça conduit à des erreurs, mais ce n'est pas volontaire, c'est-à-dire que c'est pas un faux témoignage, c'est juste que les personnes réellement pensent sincèrement, voilà. Parce que je vous dis, le cerveau reconstruit à chaque fois, comble les vides, et effectivement, ça peut poser problème parce que parfois on peut se souvenir d'informations fausses n'ayant jamais existé. C'est ce qu'on appelle parfois des fabulations, c'est-à-dire qu'en fait, on met des informations qui n'ont jamais existé, mais parce qu'on les pense vraies par rapport à nos attentes, nos préoccupations personnelles, et c'est une reconstruction, donc c'est jamais à l'identique. C'est ce qui peut évidemment avoir des conséquences parfois assez dramatiques. D'où j'allais vous dire, justement, pour tout ce qui est judiciaire, vive l'ADN, parce que l'ADN ne ment pas.
Oui, attention, forcément. Alors là, Célia, ah là là là, gros débat, gros sujet que vous venez de soulever. Parce que oui, vive l'ADN, effectivement, l'ADN ne ment pas. Mais étant donné qu'on sait que l'ADN de tout le monde traîne un peu partout, c'est facile aujourd'hui de prendre de l'ADN de quelqu'un et de le mettre quelque part en disant, bah tiens, ça y est, c'est parti, et ça ment pas.
Ah oui, ça aussi, c'est notre problème. En tous les cas, c'est vrai que s'il y a une suspicion sur quelqu'un, entre le témoignage et l'ADN, c'est quand même scientifique que malheureusement, le témoignage n'est pas fiable pour les raisons que je viens d'évoquer. Donc, c'est totalement involontaire de la part des personnes. Donc après, prendre l'ADN de quelqu'un, le mettre ailleurs pour faire condamner, là, ça devient un acte volontaire d'une personne pas très bien intentionnée. Donc on est encore dans un autre type de problème.
On est dans un autre délire, comme dirait l'autre. Mais vous êtes brillante, Célia. Ça percute vite là-haut, boum, boum, boum. Vous avez raison, tout à fait. J'ai fait une comparaison qui n'était pas également, mais ce que juste, ça me fait peur, moi, cette histoire d'ADN. Vous savez, aujourd'hui, on envoie l'ADN pour connaître ses origines et tout. Ça m'intéresse, hein, mais je le ferai pas. J'ai cette petite frayeur de me dire qu'il y a quelqu'un qui est là, mettre mon ADN quelque part, bref. On se retrouve dans un instant et on va parler aussi, vous l'avez mentionné, des faux souvenirs. Ah, ça c'est aussi incroyable. C'est juste après ceci sur Nutri Radio.
NHCO Nutrition est un laboratoire français expert en micronutrition et spécialisé dans les compléments alimentaires formulés à base d'acides aminés. Découvrez des compléments alimentaires hautement dosés pour améliorer votre santé et votre bien-être. Des gammes complètes pour vous aider à lutter contre la fatigue, le stress, vous aider dans vos objectifs minceurs ou encore pour améliorer la beauté de la peau et des cheveux. Profitez également de conseils personnalisés sur le site nhco-nutrition.com ou en pharmacie partenaire.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
Parce que moi, je vais prendre votre ADN et je vais, je vais vous cloner. C'est pas compliqué, Célia.
Ah ben avec les techniques d'aujourd'hui, c'est possible de cloner. Hein,
vous savez que j'ai vu une série il y a pas longtemps là sur Netflix sur les Raéliens. Je sais pas si vous connaissez cette secte qui dit que les extraterrestres, en fait, voilà, on est les créations d'extraterrestres. Donc il y a une série documentaire. Une docu-série, je sais pas comment on appelle ça, sur Netflix, c'est à voir. C'est cette fameuse secte qui avait défrayé un peu aussi la chronique, entre autres parce qu'elle avait annoncé qu'elle avait cloné le premier être humain. Je sais pas si vous en souvenez de ça.
Oui, j'avais entendu parler, effectivement. Mais c'est vrai que techniquement, quelque part, c'est possible. Hein. Donc après, c'est une question d'éthique, mais techniquement, oui, c'est possible.
Donc, on continue. Ben oui, on continue. Je vous dis ça par rapport à Célia Morès qui disait juste avant la pause, vive l'ADN. Si vous voulez savoir pourquoi elle a dit ça, eh ben, c'est pas compliqué. Rendez-vous dimanche à partir de 18h pour le podcast. Hein. Il sera disponible donc en replay. On parle donc des particularités de la mémoire qui peut nous tromper, la mémoire donc trompeuse. Ça, c'est vu. Maintenant, vous voulez évoquer les faux souvenirs.
Oui, Fabrice, parce que savez-vous qu'on peut implanter des faux souvenirs à quelqu'un, c'est-à-dire faire croire à quelqu'un qu'il a commis une action alors qu'il n'a pas commise, implanter des faux souvenirs. Et là, on ne s'en rend pas compte parce que finalement, c'est très important. Ça veut dire qu'on peut manipuler quelqu'un jusqu'à un certain point, bien évidemment. Alors, je vais vous prendre quelques exemples d'expériences. Les expériences principales ont été menées par une certaine Elisabeth Loftu, qui a permis d'implanter des souvenirs, ce qu'on appelle la désinformation. La désinformation, je vais vous raconter l'expérience et vous allez tous comprendre ce que ça peut être et comment aujourd'hui certains probablement la pratiquent, effectivement. Elle a montré des diapositives à donc des sujets cobayes qui sont venus passer l'expérience. Donc des diapositives qui passaient, notamment une voiture qui était à un panneau stop. Retenez bien, la voiture était à un panneau stop. Suite à ça, elle a posé des questions aux gens en leur demandant qu'est-ce qu'ils avaient vu. Donc, à différents types de questions, est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez vu. Et à 50% des gens, elle a scindé le groupe en deux, cette question n'a pas été posée. Et à l'autre 50%, elle a demandé est-ce que vous avez vu la voiture au panneau céder le passage. Suite à ça, elle a montré les photos deux à deux. Et là, elle a montré, par exemple, pour ce cas-là, une voiture au stop et une voiture au panneau céder le passage. Elle a demandé aux personnes de reconnaître la diapositive qu'ils avaient préalablement vue. Eh bien, figurez-vous, Fabrice, que ceux qui ont été soumis à la question suggestive de désinformation, est-ce que vous avez vu la voiture au panneau céder le passage, ils ont majoritairement, finalement, répondu. On a vu que c'était la voiture qu'ils avaient vue était celle qui était devant le panneau céder le passage, alors que celle qu'ils avaient réellement vue était devant le panneau stop. C'est ce qui s'appelle la désinformation. Avec une question suggestive, ils ont réussi à modifier chez une certaine partie, effectivement, des cobayes. Alors, pas tous, je vous rassure. Ils ont modifié, effectivement, la réponse. Ils ont répondu céder le passage, alors que c'était stop. Vous voyez ce qu'on peut faire avec des questions suggestives. La manière dont on pose des questions peut orienter notre réponse. Bon, on le savait, certes, peut orienter notre réponse et nous faire dire quelque chose que nous n'avons jamais vu, mais de manière totalement, volontaire, certes, mais de manière pas méchamment. C'est-à-dire que ce n'est pas vouloir tromper, c'est de manière pensant que c'est réellement la réalité. Parce que pour eux, c'était ça qu'ils avaient vu. Du coup, ils avaient enregistré que c'était céder le passage et non pas stop.
C'est incroyable.
Première expérience. Deuxième expérience. La troisième que je vous réserve est pour moi la pire. Là, c'est d'autres personnes qui travaillaient effectivement encore sur les faux souvenirs. Ils ont pris des photos. Et alors, il y avait quatre photos, trois photos qui étaient vraies et une quatrième photo qui était fausse. Ils avaient fait un montage du gamin qui aurait fait un tour de montgolfière quand il était jeune. à l'âge adulte, donc forcément, puisque ça se passe à l'âge adulte des expériences, avec un complice, donc évidemment, il faut avoir un complice dans la famille ou des proches. Il raconte les différents événements, il montre les différentes photos et évidemment l'événement fictif qui était le tour en montgolfière. Donc, la personne ne s'en souvient pas. Forcément, elle ne l'a pas vécu. Non, non, je ne m'en souviens pas ni rien. Ils insistent de manière récurrente, répétition. Ils font plusieurs entretiens en insistant, en leur demandant de créer une image mentale de l'événement, en disant « mais si », etc., en essayant de fournir un maximum de détails totalement fictifs. Du coup, grâce aux complices, donc des choses qui peuvent être potentiellement vraies. Et au troisième rendez-vous, quand ils demandent alors « est-ce que vous vous souvenez de l'événement du tour en montgolfière ?» Une bonne partie, 50% je crois de souvenirs, en tous les cas ça approchait les 50%, disait se souvenir d'avoir fait un tour en montgolfière qui n'a jamais existé.
Ah mais pourquoi ça c'est terrible ça.
Alors oui, d'abord pourquoi ça peut arriver ? D'abord il y a des gens qui sont plus ou moins vulnérables. D'autre part, il y a eu l'autorité. C'est-à-dire qu'ils ont, se sont servis d'une personne qui fait autorité. Un parent, un frère, une sœur, un prof. Donc, la personne fait autorité par rapport à un inconnu. Et là, en plus, par rapport à un récit, Fabrice, il y avait quelque chose de plus important. Il y avait une preuve matérielle, la photo. Or, pour les gens, une photo ne ment pas. On a du mal à croire que ça puisse être un montage, qu'on puisse nous mener en bateau, etc. C'est plutôt un récit. On peut se dire, non, je ne me souviens pas. Là, c'était la preuve. Donc, du coup, ils se sont, pour certains, laissés avoir. Pour ces raisons-là, parce que justement, ils ont implanté ce souvenir-là dans la mémoire des gens et leur faire croire qu'ils l'avaient vraiment vécu. Alors, après, ils leur ont dit la vérité. Évidemment que c'était fictif, mais le pire pour moi, c'est une expérience qui a été menée alors plus tard que dans les années 2000 par d'autres personnes qui travaillaient sur les faux souvenirs. Alors, heureusement qu'après, elles leur ont bien dit que c'était faux. Elles ont réussi, grâce toujours à un proche, donc à la complicité d'un proche, à faire croire à ces personnes-là qu'elles avaient commis une malversation ou même, voire même un crime et qu'elles avaient été arrêtées par la police, voire pratiquement fait de la prison. Donc, vous imaginez jusqu'où ça a été, parce que là, une photo souvenir, on peut se dire, étant enfant, j'ai peut-être oublié le tour en montgolfière, parce qu'on a tous oublié des choses que nous avons fait enfant. Là, quand même, c'est implanter un souvenir qui est quand même puissant. Elles ont réussi, pareil, plusieurs entretiens, en demandant aux gens d'imager l'information, en disant « mais oui, mais votre père nous a dit ça, votre mère nous a dit ça, tel prof nous a dit ça ». Enfin, effectivement, à chaque fois, au point qu'au dernier rendez-vous, quand ils ont demandé aux personnes « alors, est-ce que vous vous souvenez d'avoir vécu ça ?», non seulement certains s'en souvenaient, un bon nombre, donc ça avait fonctionné, mais en plus, il racontait 10 détails qu'il n'avait sur l'événement, mais qui n'avaient jamais existé, puisque l'événement n'avait jamais eu lieu. Mais ils inventaient 10 détails. Vous imaginez jusqu'où ça peut aller de implanter un faux souvenir.
Ça fait peur, d'autant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui nous permettent de générer de fausses images, de faux machins, donc on peut très bien dire, bah tiens, regarde, t'es là, c'est incroyable, ça veut dire quoi ? On peut plus se faire confiance, il faut faire quoi ?
Déjà, il faut faire attention à qui dit quoi. Bon, là, c'est des tests menés en laboratoire, donc c'est vrai qu'il y avait quand même l'impact du fait qu'il y avait la figure d'autorité qui était un proche. Maintenant, comme vous dites, Fabrice, il peut y avoir la figure d'autorité d'un média, la figure d'autorité de quelqu'un auquel on va faire confiance, un médecin, etc. Enfin, peu importe qui, mais en tous les cas, quelqu'un qu'on considère comme ayant une autorité ou à qui on pense pouvoir faire confiance. Et effectivement, il faut peut-être se méfier, en tous les cas, des informations que l'on voit, parce qu'on vient de le voir aussi avec la désinformation et le cas de la voiture avec le panneau stop et céder le passage, que ça peut être de la désinformation et toujours se méfier à savoir est-ce que l'information est vraie, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est un montage, est-ce que ça t'est vécu ou pas. Et même quand on voit des accusations avec des gens qui sont dans des vidéos ou dans des photos, savoir est-ce que c'est pas un photomontage, quelque chose comme ça.
C'est terrible, ça. Vous savez, je pense aussi aux hypnothérapeutes, parce que là aussi, a priori, on a confiance en son thérapeute et les faux souvenirs, ça fait partie des dérives, hein.
Alors, ça peut faire partie des dérives, sauf qu'en hypnothérapie, le cas de... Parce qu'on a tous vu des hypnothérapeutes, nous pratiquer de l'hypnose, même à grande échelle, j'allais dire, dans les spectacles, et la personne qui, du coup, se met à boire ou fait la poule, tout ce que vous voulez. Bon, alors, effectivement, ça serait possible. En revanche, appeler quelqu'un à commettre un meurtre, etc., comme on voit dans les films, pas que ça serait absolument pas possible, parce qu'il y a quand même une conscience qu'on a personnelle qui fait que notre conscience, de manière involontaire, innée, empêcherait de toute manière cette action-là et que ça ne perdure pas autant dans le temps. ça serait pas possible. En revanche, l'implantation de la faux souvenir, bon, en laboratoire, ils y sont allés fort, forcément. Mais c'est possible. Et c'est bon, après, ils ont dit aux gens que c'était faux. Mais c'est vrai que c'est possible. Et comme quoi, on peut peut-être faire croire à quelqu'un qu'il a commis quelque chose. Et comme on sait qu'il y a des questions qui sont subjectives, on peut se poser la question en disant, bah, la manière dont on pose la question, on peut me faire croire que j'ai fait un truc alors que je ne l'ai jamais fait. Ça... Parce que justement, voilà, ça peut, voilà, il faut vraiment être très vigilant et faire vraiment très attention et avoir essayé, si ça arrivait peut-être, essayer d'avoir un maximum de preuves et peut-être de faire confronter les preuves parce que...
Ça arrive aussi, vous savez, il y a des histoires comme ça, des gens qui sont en garde à vue, je ne sais pas, qui à un moment donné, ils finissent par craquer et croire qu'ils l'ont fait alors qu'ils n'ont rien fait. Et on a des gens qui, des années après, disent « Non, en fait, j'étais innocent. Bon, et j'étais on m'avait convaincu que je l'avais fait. »
Ben c'est ça le problème, je pensais à ça sans vouloir le dire, alors peut-être que ça existe moins en France, mais en tous les cas, on le voit souvent dans les séries américaines, et effectivement parce qu'ils martèlent, ils disent tellement, ils font craquer la personne et en fait, finalement ben, la personne peut douter ou ça fait autorité, ou les questions sont tellement subjectives que c'est un problème, et d'ailleurs c'est pour ça que quand il y a des témoignages d'enfants qui auraient subi des attouchements, etc., on filme. C'est filmé obligatoirement pour la bonne et simple raison que la personne est là sans le vouloir, hein, pas méchamment, pas pour voir accuser quelqu'un. En posant une question suggestive, elle pourrait orienter effectivement la réponse comme toute une personne, mais encore plus d'un enfant parce que c'est encore plus vulnérable. Et donc, c'est pour ça, Fabrice, que c'est filmé pour qu'on puisse revoir la vidéo et voir si dans les questions posées involontairement, la psychologue, le policier ou la personne qui a interrogé l'enfant n'a pas malencontreusement posé une question suggestive, parce que parfois, on s'en rend pas compte qu'en posant une question, on induit quelque chose chez quelqu'un. Pour nous, ça nous paraît banal, mais effectivement, il y a des mots auxquels il faut faire attention parce que ça peut orienter parfois des réponses et justement biaiser la mémoire parce que la personne va penser, croire que c'est vrai, parce qu'elle va enregistrer les informations qu'on lui dit et construire ce qu'on appelle donc un faux souvenir où la mémoire va la tromper. Et donc, ça peut évidemment causer des accusations parfois qui sont fausses pour ces raisons-là.
Est-ce que, tiens, parce que bon, là, on parle de trucs un petit peu compliqués, mais aux conséquences compliquées, dramatiques, mais est-ce qu'on pourrait se dire, c'est pas pour l'amour, tu vois, quelqu'un, mais tu m'aimes, mais enfin, oui, je t'aime, parce que tu m'as convaincu, la mémoire, souviens-toi.
Je sais pas ça, parce que, en fait, ça me pense, enfin, moi, à titre personnel, quelqu'un qui essaierait de me faire ça pour le faire aimer, je pense que ça ferait l'effet contraire, Fabrice et moi. Ça ferait l'effet plutôt, effectivement.
L'effet psychopathe, oui, garanti.
voilà, tu me saoules, quoi. Surtout, va-t'en, parce que là, tu m'étouffes et tu me saoules. Mais effectivement, quand on est confronté à un truc de manière récurrente, on finit par s'habituer à aimer, à apprécier. Bon, ça, c'est pas de la mémoire, c'est tout ce qui est les biais cognitifs dans les prises de décision qui font que ça va changer notre comportement, parce que tout ce que vous dites, toute information ou événement ou chose auquel on est confronté, on peut penser parfois aimer plus qu'autre chose, alors que c'est pas forcément le cas, mais parce que c'est la familiarité qui fait qu'on confond familiarité parfois et aimer, apprécier quelque chose.
Merci Célia, juste j'ai digressé, donc je veux m'assurer que je vous ai pas enlevé quelque chose que vous vouliez dire. Vous voulez rajouter un truc?
Non, sur les faux souvenirs, c'était l'essentiel que j'ai dit.
Non, on n'a même pas fait la pause, il y avait encore les émotions aussi que vous vouliez mentionner.
Ah ben évidemment, les émotions, allons-y Fabrice.
On va aller sur les émotions, on marque une toute petite pause, on s'est laissé, mais c'est tellement intéressant, on pourrait en parler, vous savez, on pourrait en parler des heures, des jours, et voilà, avoir de vraies conversations encore beaucoup plus longues. Donc, on marque une dernière pause et on se retrouve après ceci.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
Célia Morès sur Nutri Radio, j'étais en train de chercher une espèce d'accroche pour convaincre les auditeurs, de convaincre même d'autres auditeurs de venir sur Nutri Radio à travers ces faux souvenirs. Mais je me suis dit, non, pas de faux souvenirs, ça sert à rien. Voilà, on crée des vrais souvenirs, du vrai lien avec les auditeurs, puisqu'on parle des particularités de la mémoire avec le docteur Célia Morès, docteur en neurosciences. Et donc, fait un chapitre sur les faux souvenirs. Si vous venez d'arriver, je vous invite vraiment à réécouter cette émission aussi à partir de 18h ce dimanche, car elle sera dispo en podcast sur nutriradio.fr, mais pas que, hein, sur toutes les plateformes de streaming audio. Les particularités de la mémoire maintenant en ce qui concerne les émotions, Célia.
Alors, totalement. On en avait déjà un petit peu parlé. Fabrice, vous avez dit qu'on mémorisait généralement une information, un événement qui nous était cher. Alors, pourquoi ? est-ce que ça se passe là, qui est déchargé émotionnellement. Pourquoi est-ce qu'on va plus mémoriser la naissance du premier enfant, notre premier jour d'emploi, le premier emploi, le premier jour vraiment de vrai emploi après les études. Tout ça, tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il y a un fort lien entre émotion et mémorisation. Pourquoi, Fabrice ? Parce qu'on a une structure au niveau du cerveau qui s'appelle l'amygdale. Donc, l'amygdale au niveau du cerveau, rien à voir avec les amygdales du fond de la gorge. Hein. Même si ça s'écrit exactement la même, de la même manière, ce n'est pas les mêmes. Donc, cette amygdale, elle est dédiée à quoi ? Elle est dédiée à évaluer le caractère plaisant ou non plaisant d'un événement, d'une expérience. En fait, elle est dédiée à l'analyse quelque part émotionnelle. Mais cette structure, elle est proche de l'hippocampe. Or, l'hippocampe, Fabrice, souvenez-vous, c'est quoi ? C'est une structure cérébrale qui est impliquée dans notre mémoire à long terme, qui nous permet d'encoder, de mémoriser les informations à long terme, de mémoriser notamment un souvenir. Donc, quand on vit un événement, plaisant ou déplaisant, avec une certaine émotion, comme la naissance d'un premier enfant pour la personne qui devient mère pour la première fois, le premier emploi, peut-être son permis de conduire. Moi, personnellement, le jour où j'ai passé ma thèse, mon oral de thèse, ça va être quoi ? C'est que cette amygdale, elle va décharger, elle va s'activer, mais elle va informer en même temps l'hippocampe du caractère important de l'événement et que cet événement, tout particulièrement, il est dont il faut se rappeler. Et c'est pour ça qu'on emmagasine mieux, qu'on mémorise mieux les informations qui ont un lien émotionnel avec nous. Parce que les informations récurrentes, vous ne vous souvenez pas, Fabrice, à chaque fois que vous êtes allé au supermarché de ce qui s'est passé. Vous ne vous souvenez pas probablement de toutes les sorties au restaurant avec des amis ou quel type de restaurant, etc. Mais certains événements, oui. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été chargés émotionnellement, il s'est passé quelque chose, ou il a été dit quelque chose, une conversation vous a marqué, peu importe, ça va évidemment activer votre mémoire et être mieux encodé que le reste. Ça, c'est un point important. Autre point, on le sait aussi, Fabrice, qu'on mémorise aussi les informations qui ont un pouvoir, on va dire, émotionnel fort et on va les mémoriser de manière factuelle et émotionnelle. Autrement dit, Fabrice, on se souvient tous de ce qu'on faisait généralement le 11 septembre 2001. On se souvient tous de ce qu'on faisait le 13 novembre 2015 et le 14 juillet 2016. Donc, évidemment, les attentats des Tours, le Bataclan, le 14 juillet à Nice, effectivement, on s'en souvient. Il y a des choses dont on peut ne pas se souvenir, mais moi, personnellement, vous me poseriez la question, je sais très bien ce que je faisais le jour où je l'ai appris, au moment même où je l'ai appris, je me souviens de ce que je faisais. Pour le 2001, pareil pour 2015, pareil pour 2016. Alors, même s'il y a des brides qui sont peut-être parties, mais pourquoi ? Parce qu'il y a eu un événement tellement fort, tellement marquant dans notre esprit que ce qu'on a fait autour n'a pas pu normalement être oublié. Donc là aussi, pouvoir émotionnel, des émotions. D'autre part, Fabrice, si on prend en laboratoire et que vous présentez des mots à des personnes, des mots neutres et des mots émotionnels. Les mots qui seront le plus retenus seront les mots qui seront émotionnels parce qu'il y a un lien avec l'émotion. Donc, l'amygdale, évidemment, va s'activer. Du coup, elle va parler à l'hippocampe qui va mieux mémoriser ces mots-là que des mots totalement neutres. Et c'est d'autant plus vrai si vous présentez des mots émotionnels, Fabrice, qui sont en lien avec l'émotion de la personne, les problèmes de la personne. Si vous prenez une personne qui est anorexique ou boulimique, des mots liés à la nourriture, pour elle, ce sont des mots émotionnels. Elles vont mieux retenir ces informations que d'autres types de mots. Un dépressif, ça sera les mots négatifs qui seront mieux retenus que les autres parce qu'ils seront en période négative. Ça, c'est des choses importantes. D'autre part, pour finir sur les émotions, il y a deux points que ça rentre en compte. Ça va être quoi, Fabrice ? Ça va être, effectivement, les émotions du jour. Quand on se sent bien ou pas bien, suivant qu'on se soit levé du bon ou du mauvais pied, Fabrice, on n'a pas encodé les informations de la même manière, et on ne va pas les percevoir de la même manière. Et là aussi, ça va jouer un rôle sur notre encodage et notre mémorisation de l'événement. Si on est bien, un événement va nous paraître peut-être super. Si on n'est pas bien, cet événement va peut-être mal le vivre et finalement avoir un souvenir, un bad souvenir, alors qu'on pourra avoir un good souvenir de l'événement. Voilà en quoi, évidemment, les émotions impactent nos souvenirs.
Encore une masterclass, Célia Moret, c'était très intéressant comme à chaque fois. Merci beaucoup, émission à retrouver à partir de 18h ce dimanche sur Nutri Radio en replay. Célia, on se retrouve la semaine prochaine ?
Très volontiers, bien évidemment, Fabrice, avec grand plaisir.
Bien, merci beaucoup, plaisir partagé. Si vous voulez réagir à ces émissions, nous partager aussi des témoignages de mémoire, d'absence de mémoire, de faux souvenirs, n'hésitez pas, vous allez sur le site nutriradio.fr dans la partie médias. Et contact en précisant Célia Morès, en précisant la sphère neuro. Vous nous racontez ça et puis on le partagera sur antenne, bien évidemment. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
La sphère neuro, Célia Morès sur Nutri Radio.